Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21. Et nous allons lire les versets 5 à 8. Apocalypse 21. Nous avons vu la dernière fois, donc, que Jean décrit les nouveaux cieux, la nouvelle terre et ceux qui habitent et habiteront cette nouvelle terre. Et Jean continue donc au verset 5. « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On passe au chapitre 20, nous avions vu qu'à la fin de l'histoire, au jour du jugement, toute personne, tous les êtres humains vont se tenir devant Dieu. Et notre plus grand besoin, donc, est de connaître ce Dieu, premier mot sur la feuille, et de savoir comment être accepté par lui. Et ce passage nous montre Dieu comme il est, comme il sera à la fin de l'histoire. Jean nous dit que Dieu déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles » et il se révèle. Et on va dégager trois points. Tout d'abord, le premier point, Dieu montre qu'il est un Dieu de vérité. Tout d'abord, sa parole est vraie. Il était important pour les lecteurs de Jean que son message soit véritable, soit vrai, soit certain. Ils allaient faire face à la souffrance, ils allaient faire face à la persécution à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Certains même allaient perdre leur vie et parce qu'ils allaient refuser de se soumettre au culte idolâtre de l'empereur. On a lu par exemple au chapitre 2, qu'un homme nommé Antipas avait déjà été mis à mort à cause de sa foi dans la ville de Pergame. Et Jean décrit dans le livre de l'Apocalypse un nombre croissant de martyrs, chapitre 6 ou le chapitre 20, que nous avons vu. Et ce serait une tragédie de souffrir et de mourir si tout cela n'était pas vrai. Et on a des exemples, même aujourd'hui, de personnes qui sont prêtes à souffrir et même à mourir pour quelque chose qui n'est pas vrai. Et on pense aux terroristes islamiques, des gens, des hommes, des femmes, parfois même des jeunes, qui sont prêts à sacrifier leur vie parce qu'ils croient que Allah, ce faux Dieu, va leur accorder une place au paradis. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, quand on voit cela, on se dit, mais quelle tragédie, quel aveuglement! Mais cette pensée peut parfois traverser notre esprit. Est-ce que nous souffrons pour quelque chose qui ne serait pas vrai? Il est donc essentiel de connaître la certitude, deuxième mot sur la feuille, la vérité du message de la Bible. Et c'est ce qui intéresse Dieu quand il s'adresse ici à Jean au verset 5, écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Et Dieu apporte son propre témoignage à la vérité de sa parole, et il est un témoin qui est valable. Hébreux 6, 18 nous dit, il est impossible que Dieu mente. Son témoignage établit la vérité. La nature même de Dieu exige qu'il soit fidèle à sa parole. Paul, en 1 Thessaloniciens 5, verset 24, écrit « Celui qui vous a appelé est fidèle. et c'est lui qui le fera. Et en écrivant donc les paroles que Dieu lui a données, Jean accomplit ce ministère vital qu'est le ministère apostolique. Paul, en Éphésiens, chapitre 2, verset 20, en parlant de l'Église, écrit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Et cela veut dire que l'écriture du message de Dieu, de la révélation de Dieu, est la base, le fondement pour l'Église. Le chrétien est celui qui accepte, qui croit le témoignage des apôtres. Ces apôtres qui nous présentent le Seigneur Jésus-Christ, qui nous présentent son œuvre de salut et tout ce que Dieu a révélé. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1:21, écrit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ces hommes ont été des témoins. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Ils ont été envoyés par le Seigneur Jésus. Dieu leur a parlé. Ils ont écrit cette parole. Et ils ont sauvegardé, troisième mot sur la feuille, ils ont sauvegardé le message que Dieu avait pour son peuple et pour son peuple de toute l'histoire, encore aujourd'hui. Cela veut dire que Dieu ne parlait pas seulement à Jean dans cette vision sur l'île de Patmos. Mais comme il a demandé à Jean d'écrire cette révélation, il parle à tout son peuple, tout au long de l'histoire. Et cela inclut nous-mêmes ce matin. Partout où sa parole est lue, partout où sa parole est expliquée, quand on lit la Bible, que ce soit ensemble comme nous l'avons fait, ou que ce soit personnellement à la maison, nous ne lisons pas la parole de Jean, ou la parole de Paul, ou de Pierre, ou d'Ésaïe. Ou... Non, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de Dieu. Et c'est la parole qui nous parle quand on la lit, quand on l'écoute. C'est une parole vivante que l'Esprit nous aide à saisir, qu'il applique à nos cœurs. C'est l'Esprit Saint d'ailleurs qui l'a inspiré. Et c'est le même Esprit Saint qui nous parle aujourd'hui à travers cette parole. Et cela veut dire qu'en fin de compte, nous sommes certains de la vérité de la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle aujourd'hui, quatrième mot sur la feuille. C'est Dieu lui-même qui parle aujourd'hui par sa parole. Il parle à nos cœurs, il scelle la vérité de cette parole dans nos cœurs par le ministère de l'Esprit-Saint. Les confessions de foi l'expriment bien. Je te citerai simplement l'une d'entre elles, la nature divine du contenu, la portée pratique de la doctrine, la majesté du style, la cohérence de toutes les parties, l'objectif de l'ensemble qui est de donner à Dieu toute la gloire, la pleine révélation de l'unique chemin conduisant au salut et de nombreuses autres qualités incomparables. Bref, ces perfections pleines et entières sont autant d'éléments par lesquels la parole de Dieu s'authentifie elle-même. Néanmoins, notre conviction et notre certitude quant à l'infaillible vérité et à la divine autorité du texte ne proviennent que de l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, portant témoignage par et avec la parole dans nos cœurs. C'est l'Esprit qui nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous parle par sa parole. Et Jean donc écrit cette révélation et il nous dit « Et celui qui était assis sur le trône dit « Écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. » Et le peuple de Dieu reconnaît que les paroles de Dieu, que ses paroles sont vraies, parce que l'Esprit applique cette parole dans le cœur. C'est pour ça que nous devons lire la Bible, personnellement, en demandant à Dieu d'appliquer sa parole à nos cœurs, de nous convaincre de l'infaillibilité de sa parole. Jean devait donc écrire cette parole de Dieu parce que les lecteurs de cette église en Asie devaient savoir que tout était vrai. Comme nous aujourd'hui, nous devons être convaincus que tout ce que dit la parole est vrai. Et Dieu déclare que tout cela est vrai. Il porte lui-même son témoignage. Il déclare la vérité de sa parole. Sa parole est vraie. Mais l'accomplissement de sa parole et des promesses est certain. Verset 6, Jean souligne que les événements qui sont annoncés dans la parole sont tous accomplis. Cinquième mot sur la feuille. Il me dit, c'est fait. Jean voit Dieu qui est à la fin de l'histoire. Le jugement est arrivé, il a été exécuté. Jean voit le Dieu qui est à la fin de l'histoire sur son trône, qui s'adresse à Jean et à nous qui sommes encore dans l'histoire. Et Dieu qui se tient à la fin de l'histoire dit que ce qu'il a promis ici va se réaliser. Ce qu'il a promis dans sa parole va se réaliser. Et lui qui se tient à la fin de l'histoire dit, c'est fait. C'est fait. Tout a été accompli. Dans la souveraineté de sa volonté, tout ce qu'il a promis s'est accompli. Le terme grec ici devrait se traduire plutôt par « cette arrivée » ou même « ces choses sont arrivées » puisque le terme est au pluriel. Et Dieu fait référence ici à toutes les choses qui sont promises dans le livre de l'Apocalypse, en particulier le jugement et le salut. L'homme voit la confusion, il ne sait pas quoi penser de l'avenir, mais le plan de Dieu est clair et certain. Et pour ceux qui regardent à Dieu en Christ, l'avenir n'est pas incertain. Marcel Achard, un auteur dramatique du XXe siècle, écrit ceci, « Il n'y a qu'une chose certaine dans la vie, c'est qu'on la perd. » Mais le chrétien dit non. Il y a beaucoup de choses qui sont certaines dans la vie. Tout ce qui est annoncé dans la parole de Dieu est certain. Tout ce que Dieu promet est certain. Cela va arriver. Et Dieu se tient à la fin de l'histoire et dit, c'est arrivé. Ces choses sont arrivées. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et quand on lit cette déclaration, il est impossible de ne pas penser à d'autres déclarations semblables, en particulier la déclaration du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, quand il s'est écrié « Tout est accompli ». Là, le Seigneur affirmait que l'œuvre d'expiation était faite, que la culpabilité du peuple de Dieu à cause du péché a été enlevée. Nous avons aussi vu en Apocalypse 16, verset 17, ce verset, il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Et c'est la voix de l'ange qui a versé la septième coupe de la colère de Dieu. Là, il est question de jugement. Le jugement a été exécuté. Sur la croix, le Seigneur Jésus parle de l'enlèvement de la culpabilité du péché. Lorsque l'ange s'écrie, après avoir versé la septième coupe de la colère de Dieu, il parle de l'enlèvement du règne du péché. Et là, maintenant, à la fin de l'histoire, Dieu déclare que toutes ces choses sont arrivées. Tous les événements de l'histoire de la rédemption sont arrivés, y compris la destruction de ce monde et l'inauguration d'un monde nouveau. Tout, sixième mot sur la feuille, tout a été accompli. Tout est arrivé. Toutes choses ont été faites nouvelles. Mais on peut aussi dire que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Jean le souligne au verset 6. Dieu dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » Et Dieu déclare son éternité. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Oméga est la dernière. Et par cette phrase, Dieu déclare qu'il est le Créateur qui était avant toute chose et qui sera à la fin de toute chose. Alors, il ne s'agit pas d'une hérésie déiste qui dirait que Dieu a commencé toute chose, puis qu'il est parti, et puis qu'il revient à la fin pour mettre fin à l'histoire. Non. Cette affirmation souligne que Dieu est souverain, septième mot sur la feuille. Il est souverain non seulement au début et à la fin, mais aussi sur tout ce qui est entre le début et à la fin. Il contrôle absolument toute chose. Vous connaissez sans doute le logo d'Amazon. Amazon avec cette flèche en forme de sourire qui va de A à Z. L'entreprise qui affirme pouvoir vendre tout de A à Z. Et elle le fait pour la satisfaction du client, d'où le sourire. Mais voilà. Certains disent que Dieu est souverain sur les grandes choses et pas sur les petites. Mais comment peut-il ne pas être souverain sur les petites choses qui constituent les grandes ? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a posé la question. Il dit « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Matthieu 10, verset 29. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus insignifiant que cela, un passereau qui tombe à terre. Non, quand Dieu dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il dit qu'il est celui qui est éternellement souverain, du A à Z, du début à la fin. Et il est souverain sur toute chose. Il règne sur la totalité de l'histoire. Et c'est pour ça que nous pouvons être assurés de la vérité, de la certitude de sa parole. Ce Dieu qui a annoncé ces choses va certainement les faire en sorte qu'elles arrivent parce qu'il est souverain, parce qu'il est éternel, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est tout-puissant. Et il va s'assurer que ce qu'il a dit, il va le faire. Et cela va s'accomplir. En Jérémie 1, verset 12, l'Éternel dit « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Dieu exécute sa parole, huitième mot sur la feuille. Il exécute sa parole. En Éphésiens 1, verset 11, Paul dit que Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est lui qui opère toutes choses. Comment savoir si ce que nous entendons ou ce que nous lisons est vrai? En revenant à la parole. En revenant à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous l'étudions ensemble. C'est pour ça que nous la lisons, que ce soit ensemble ou personnellement. Dans bien des lieux, même aujourd'hui, des gens se rassemblent pour un divertissement. Des gens se rassemblent pour entendre des témoignages. Cela attire des foules. Mais les gens ne sont pas édifiés. Les gens ne sont pas encouragés. Les gens ne sont pas instruits. Nous avons besoin d'être instruits. Et nous sommes instruits par la vérité. Et la parole est la vérité. La parole qui vient de Dieu. Dieu dit à Jean à la fin de l'histoire qu'il a tout accompli, que tout ce qu'il a annoncé, il l'a accompli. Ses paroles sont certaines et véritables. Dieu est un Dieu de vérité. Le deuxième élément qui est le deuxième réalité qu'il révèle ici, c'est que Dieu est un Dieu de vie. Verset 5 dit, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » L'histoire de ce monde est remplie de toutes les entreprises humaines qui, pour chercher à établir un monde nouveau, ces entreprises qui ont échoué. L'homme veut établir une utopie par l'éducation, par des lois, par des traités de paix, par des changements en faveur de l'environnement. Mais tous ces efforts échouent à cause de la puissance de corruption du péché. Neuvième mot sur la feuille. Cette corruption qui, inévitablement, va polluer tout ce que l'homme fait. La dernière fois, nous avons dit que Dieu avait nettoyé le monde avec le déluge au temps de Noé. Et le monde était propre. Il était nettoyé. Jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte de l'arche et que des pécheurs sortent de l'arche. Noé et sa famille sont entrés dans ce monde nettoyé. Et en relisant l'histoire en Genèse, il ne faut pas longtemps pour voir la corruption du péché provoquer des dégâts et polluer ce monde encore une fois. Et c'est la même chose pour nous, pécheurs. Mais Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. À la fin de l'histoire, il dit qu'il fait toute chose nouvelle. Mais Dieu fait quelque chose déjà maintenant, par son esprit, en donnant la vie nouvelle à ceux qui croient en lui, dixième mot sur la feuille. Nous avons lu ce passage en 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, dans ce passage, Dieu se tient à la fin de l'histoire, il s'adresse à ceux qui sont encore dans l'histoire, c'est-à-dire nous. Et la vie qu'il donne à la fin de l'histoire, il la prépare aujourd'hui à ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Une vie de liberté, une vie libéré de la domination du péché, de la puissance du péché. Bien sûr, ici-bas, nous sommes encore pécheurs. Mais nous ne sommes plus pécheurs par obligation. Dieu, par son esprit, nous donne la capacité, la volonté de rechercher la sainteté, de le désirer, de rechercher la pureté, de rechercher la justice. Et Jean, comme il l'a fait plusieurs fois dans ces derniers chapitres, se réfère à Ésaïe. Ésaïe 43, verset 18, nous lisons, Dieu dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » À la fin de l'histoire, Dieu dit, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Je fais toute chose nouvelle. Et être croyant, être chrétien aujourd'hui, c'est faire l'expérience dès aujourd'hui de cette vie nouvelle de sainteté, de pureté, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. C'est expérimenter la présence de Dieu en attendant le jour où l'on se tiendra dans la présence de Dieu et où Dieu fera toute chose nouvelle. Et cela met en avant la tragédie de ce monde. Les gens aujourd'hui se cachent de Dieu, ils font tout pour éviter que Dieu n'entre dans leur vie. Mais c'est Dieu qui donne la vie. Et il la donne gratuitement, onzième mot sur la feuille. Voyez le verset 6. « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » C'est un résumé du message du salut. Dieu présente ce salut comme la source d'eau de la vie. Celui qui a soif est invité à boire gratuitement. La tragédie, c'est que l'homme ne vient pas. L'homme ne vient pas à la source. Et nous vivons dans un monde de mourants, où les âmes ne trouvent pas de satisfaction. Mais Dieu n'a jamais promis une vie sans souci dans ce monde. Mais il a promis une source d'eau de la vie. Une vie nouvelle dans laquelle nous apprenons à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Sachant qu'il prendra soin de nous. Il nous a promis une vie où nos âmes trouvent satisfaction et réconfort en Christ. Jean utilise la métaphore de l'eau pour parler bien sûr du ministère du Saint-Esprit. Et on se rappelle de ce passage en l'évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, le Seigneur Jésus-Christ qui parle le dernier jour. C'est Jean d'abord qui parle, qui met le contexte. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et c'est ce que les chrétiens aujourd'hui vivent en Christ. Ils boivent de cette source par la foi. Ils vivent cette vie nouvelle. Dieu offre en Jésus-Christ tout ce que notre âme a besoin. 12e mot sur la feuille. Il offre en Christ tout ce dont notre âme a besoin pour fleurir. Il offre sa miséricorde, sa grâce, son pardon, sa paix, sa puissance. Et si quelqu'un possédait ce genre de source, il pourrait exiger un prix exorbitant pour étancher la soif de ceux qui viennent à lui. Mais Dieu offre cette source de l'eau de la vie gratuitement. La question se pose, quel genre de personne peut Dieu accueille-t-il à cette source de l'eau de la vie? Est-ce qu'on doit faire certaines choses? Est-ce qu'on doit atteindre un certain degré moral, accomplir un rituel? Le texte nous dit simplement, à celui qui a soif, à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie. C'est tout ce qui est demandé. Avoir soif de Dieu, de la vie spirituelle qu'il offre en Jésus-Christ. Et boire, c'est une métaphore de la foi. Nous recevons ce que Dieu donne en Christ. Nous le recevons par la foi. Et verset 7, il rajoute un autre aspect de cette vie. Il parle des relations dans lesquelles les croyants vont entrer à la fin de l'histoire. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Les habitants de cette nouvelle Jérusalem vont profiter de ce privilège de connaître Dieu comme leur père. 13e mot sur la feuille. Un père a une relation spéciale avec son fils. Le livre des Proverbes est un dialogue entre un père et son fils. Un père qui veut transmettre sa sagesse à son fils. Le sommet est le proverbe 23, verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. » Et pour cela, le père donne d'abord son cœur à son fils. Et c'est ce que Dieu fait. Et nous connaîtrons nous connaissons déjà cette relation et nous la connaîtrons à la perfection à la fin de l'histoire. Bien sûr, quand on parle de père, parfois on peut penser au manquement de nos pères terrestres. Mais nous avons tous, croyants, un Père céleste qui est parfait et qui se dépense pour passer l'éternité à se donner à ses enfants. C'est l'expérience d'un amour qui est riche et qui ne cessera de grandir. Et c'est l'héritage de tous ceux qui viennent à Christ par la foi, maintenant, aujourd'hui. Alors certains experts font tout un plat parce que le mot « père » ne figure pas dans ce verset. Le verset dit « Je serai son Dieu et il sera mon fils ». Certains vont dire que Dieu n'est père que pour Jésus. Dans un sens, c'est vrai. Dieu, le Père, a une relation spéciale avec Jésus-Christ, avec Dieu le Fils. Mais la merveille de l'Évangile, c'est que par la foi en Christ, par notre union avec Christ, nous sommes adoptés en tant que fils, 14e mot sur la feuille, nous sommes adoptés en tant que fils dans la famille de Dieu. Et nous jouissons de ce statut de fils de Dieu. Il n'y a pas deux statuts de fils. Non, il y a le premier-né, oui, et puis il y a tous les autres. Il y a le Seigneur Jésus, il y a tous ceux qui sont unis à lui par la foi. Et ils sont tous fils de Dieu. Galates 3, verset 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il y a parfois la tendance dans certains milieux à rendre ce verset neutre pour ne pas offenser les sœurs en Christ. Certains vont dire, oui, il faut dire en fait les fils et filles de Dieu. Mais c'est théologiquement faux. De la même manière, on ne dit pas que l'Église est l'épouse et l'époux de Christ. Nous sommes tous l'épouse de Christ. Si nous appartenons à lui, nous sommes tous l'épouse de Christ. Et nous sommes, si nous sommes à lui, nous sommes aussi tous fils de Dieu. Parce que l'idée derrière est celle du premier-né, c'est-à-dire celui qui reçoit l'héritage. En Christ, nous sommes tous héritiers. Nous sommes tous héritiers de Dieu. Et ici-bas, nous goûtons déjà à cette réalité par la foi. Mais à la fin de l'histoire, quand Dieu fait toutes choses nouvelles, par la dernière résurrection, nous atteindrons la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et tout sera parfait. Le verset 7 précise, celui qui entrera dans la gloire, c'est celui qui vaincra, qui héritera ces choses. Celui qui vaincra. Et en mettant les versets 6 et 7 ensemble, on a une bonne description de la foi. La foi, c'est la soif. C'est recevoir de ce que Dieu donne. Et c'est ainsi que la vie chrétienne commence. Et c'est ainsi que la vie chrétienne est caractérisée. On reçoit ce que Dieu donne. Mais il y a aussi la foi active, une foi qui va combattre et qui va vaincre, 15e mot sur la feuille. Nous marchons par la foi, nous avançons par la foi. La foi qui triomphe de ce monde, c'est notre foi. Il y a certaines personnes qui, dans le monde évangélique, n'aiment pas entendre cela. Certains vont dire qu'il ne faut pas parler de cette manière parce que cela va décourager les plus faibles. Mais au contraire, ces croyants doivent savoir qu'ils peuvent avancer par la foi, parce qu'ils ne sont pas seuls. D'autres disent qu'ils savent ce qu'ils devraient faire, mais ils attendent que Dieu fasse quelque chose pour les rendre capables de le faire. Non. Nous avons tout en Christ. Nous avons tout maintenant pour faire sa volonté. Nous sommes appelés à vaincre maintenant par la foi. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Si nous croyons, si nous sommes à Christ, l'Esprit Saint habite en nous. Et nous pouvons vaincre, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Certains pensent que c'est de l'arrogance en parlant de la vie chrétienne victorieuse. Alors cette expression « vie chrétienne victorieuse » a été galvaudée, a été mal utilisée, mais elle exprime quand même une réalité. Ce n'est pas de l'orgueil que de parler de vaincre par la foi en Christ, parce que nous sommes vainqueurs par grâce. Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » En tant que chrétiens, nous sommes appelés à connaître des victoires, même si dans cette vie, nous n'aurons pas 100% de victoire. Nous allons connaître des chutes, nous allons connaître des manquements, et cela nous fait mal, cela nous attriste. Mais nous aurons aussi des victoires sur le péché. Nous connaîtrons des victoires par la puissance de Dieu qui est notre Père et qui nous prépare pour l'éternité à venir. Si je regarde en arrière, je vois que je ne suis pas l'homme que j'étais il y a 10 ans. Et dans 10 ans, si je suis encore sur terre, je regarderai à ce que je suis aujourd'hui et je verrai l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Dieu œuvre, et il nous fait avancer, il nous fait vaincre, il nous fait remporter des victoires par la foi. À la fin de l'histoire, Dieu est assis sur son trône. Il se révèle comme le Dieu de vérité. Il se révèle comme le Dieu de vie. Et troisièmement, il se révèle comme un Dieu de justice. Et le passage donc que nous voyons se termine par cet avertissement. Encore une fois, rappelez-vous, Dieu est à la fin. Jean voit Dieu qui est à la fin de l'histoire et qui lui dit, voilà, il lui dit tout, c'en est fait, c'est arrivé. Et il s'adresse à Jean qui écrit ces mots au milieu de l'histoire et à nous qui sommes au milieu de l'histoire et qui lisons ces mots. Et Dieu sait que tous ne seront pas sauvés. Ceux qui prétendent que le salut est universel vont contre le message de la parole de Dieu. Dieu se révèle comme le Dieu de justice, qui va punir, 16e mot sur la feuille, qui va punir tout péché qui n'est pas pardonné, toute rébellion qui est contre lui sera détruite par l'étang de feu. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ceux qui ont soif de péché et non de Dieu, ceux qui sont engagés dans la recherche des plaisirs du monde, ceux qui collaborent avec la grande prostituée Babylone, la bête et le dragon, ceux qui persécutent le peuple de Dieu, que ce soit par la violence ou que ce soit par la parole, tous souffriront avec ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Ils ne connaîtront pas l'héritage de gloire, mais ils connaîtront les temps de feu qui est la seconde mort. Il y a deux parties dans cette liste, au verset 8. Et la première partie contient ceux qui, à un moment donné, ont fait une profession de foi en Christ et qui, attirés par le monde ou par crainte de la persécution, se sont détournés de Christ, 17e mot sur la feuille. On voit les lâches, les incrédules, les abominables. Ces termes suggèrent donc des personnes qui se sont détournées de Christ par crainte ou par convoitise. Et Jésus a parlé de telles personnes en disant que ces personnes n'avaient pas de racines. Ils tiennent pour un temps. Ils peuvent participer à la vie de l'Église, peuvent même être dans l'enseignement. Mais quand la tribulation arrive, quand la persécution arrive, ou quand le monde devient plus attirant à leurs yeux, ils se détournent de Christ. Jésus ne parle pas de quelqu'un qui perdrait son salut, mais de quelqu'un qui révèle qu'il n'a jamais été sauvé. Il n'avait pas de racines. Il a connu une expérience des bénéfices de la vie chrétienne. Il a goûté le don céleste, Hébreux 6 par exemple, mais il s'est détourné du Seigneur Jésus-Christ quand l'épreuve est arrivée. Et cela devrait nous avertir qu'il faut prendre au sérieux notre réponse aux épreuves. Dieu a façonné nos épreuves pour nous tester, pour nous éprouver. Les épreuves révèlent ceux qui sont de faux croyants. Ce n'est pas quand le soleil brille et que tout va bien que l'on peut dire qui est en Christ et qui ne l'est pas. Mais c'est quand vient la souffrance, quand vient la tentation. C'est une épreuve qui affine, qui purifie la foi du croyant. Pierre le dit dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. L'épreuve va révéler. Les détestables, les abominables sont les apostats qui se détournent du Seigneur Jésus-Christ. Certains grands ennemis du Seigneur Jésus-Christ sont des personnes qui ont grandi dans l'Église, qui ont entendu l'Évangile et qui l'ont rejeté. Des enfants de missionnaires ou des enfants de pasteurs, par exemple, se détournent de Christ, deviennent détestables, deviennent abominables. La deuxième partie de cette liste comprend des pécheurs dont la vie caractérise la débauche de ce monde, 18e mot sur la feuille, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Et la vie du croyant ne doit pas être caractérisée par ces péchés. Si on retourne au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, les lettres aux sept églises, on voit que le Seigneur Jésus parle de ces choses. Il va réprimander l'Église pour sa débauche ou pour son idolâtrie. Il aurait pu le faire pour les autres éléments, pour la violence, les pratiques occultes, le mensonge. Ces mots qui viennent de Satan ne doivent pas avoir de place dans la vie d'un croyant. Mais en disant cela, il y a un danger. Parce que Satan va prendre cela et va l'appliquer au cœur d'un croyant qui est sensible. Il va lui dire, ah, tu viens de mentir, donc tu vas en enfer. Tu as commis un des péchés qui est sur cette liste, et donc tu vas aller en enfer. Mais nous ne devons pas oublier que nous soyons croyants sensibles ou moins sensibles. Nous ne devons pas oublier que Christ est venu pour racheter précisément ce genre de pécheurs. Dieu n'est pas en train de dire à Jean que celui qui a commis un seul de ses péchés est interdit d'accès dans la vie éternelle. Non. Le sang de Christ nous purifie de tous nos péchés. 1 Jean 1, verset 7. Et Paul rajoute que Christ est venu pour sauver des pécheurs, et Paul dit qu'il était le premier d'entre eux, le pire. Paul a persécuté l'Église. D'autres grands serviteurs de Dieu étaient de grands pécheurs avant que Dieu ne les saisisse et ne les amène à Christ. Mais ayant été sauvés de tels péchés, nous devons renoncer à ces choses. Ces péchés ne doivent pas être la caractéristique de nos vies, 19e mot sur la feuille. Elles ne doivent pas être la caractéristique de nos vies. Oui, nous avons été coupables de ces péchés d'une manière ou d'une autre, mais en Christ, nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. Ces choses appartiennent à notre passé. Elles ne doivent pas caractériser notre présent. Dieu est assis sur le trône à la fin de l'histoire et il se révèle comme un Dieu de justice. Tous n'entreront donc pas dans le monde où toutes choses sont nouvelles. Tous ne seront pas sauvés. Beaucoup vont suivre une vie de rébellion jusque dans les temps de feu. Les croyants vont célébrer la vérité de Dieu, la vie qu'il donne. Les incroyants glorifieront la justice de Dieu dans leur condamnation éternelle. Terminé. Nous avons donc, à la fin de l'histoire, Dieu assis sur son trône qui parle à Jean. Et nous avons vu qu'à la fin de l'histoire, tout être humain se tiendra devant lui. Et si donc Dieu se tient à la fin de l'histoire, cela veut dire qu'il est aussi celui qui compte le plus aujourd'hui. 20e mot sur la feuille. Nous avons déjà dit dans notre étude sur l'Apocalypse qu'à la fin de l'histoire, il n'y a plus d'opportunité pour la repentance. Nous avons vu au chapitre 20, des livres seront ouverts. Ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie entreront dans la gloire avec Christ. Les autres seront jugés selon leurs œuvres et jetés dans les temps de feu. Dieu l'a annoncé. Il l'accomplira certainement. Et ce sera juste. Ce sera juste. Mais aujourd'hui, il offre encore la vie, 21e mot sur la feuille. Aujourd'hui, il offre le pardon. Aujourd'hui, il offre la réconciliation par la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui est un jour de grâce. Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu de vie, un Dieu de justice. Qu'il nous accorde la grâce de le connaître aujourd'hui, avant le retour de Christ. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.